RCF. Qui n'a pas fait l'expérience de ressasser pendant des heures, pour ne pas dire des nuits entières, un problème avec un collègue de travail, une dispute avec son conjoint, ou vous savez, cette petite remarque que l'on vient de vous faire et qui s'insinue dans votre esprit et que vous répétez sans cesse en développant de la colère ou de l'aigreur. Docteur Serge Marquis, bonjour et bienvenue non seulement sur RCF mais aussi en France. Vous êtes médecin, bien connu au Québec pour vos nombreuses conférences et formations en santé mentale au travail. Votre livre, qui a rencontré un grand succès au Québec, vient d'être publié en France aux éditions de La Martinière et il s'intitule « On est foutu, on pense trop, comment se libérer de pensouillard le hamster ?» Pensouillard le hamster qui tourne en rond dans sa roue, eh bien c'est grâce à lui que vous nous invitez à prendre du recul sur nos pensées et sur leurs effets secondaires. Alors si vous le voulez bien, Serge Marquis, avant de nous intéresser à Pensouillard le hamster, j'aimerais tout d'abord faire un peu plus connaissance avec vous. Qu'est-ce qui vous a donné envie de devenir médecin?
J'ai eu le goût très tôt dans ma vie de servir, je pense que c'est ça. Très tôt, j'avais 6 ans ou 7 ans, je me souviens encore de ça, c'est fascinant. J'avais le goût d'aller en mission. J'avais le goût de... Déjà, j'étais très sensible à la souffrance humaine, très très tôt dans ma vie. Je sais pas pourquoi, mais j'étais très sensible à ça. Je voyais même des films à la télévision en noir et blanc à l'époque m'arrivait même de pleurer parfois devant des situations que je trouvais terribles et pour lesquelles je me disais, il me semble qu'il est possible de faire quelque chose. Et j'avais 6 ans, 7 ans, 8 ans. Alors évidemment, il y avait toutes sortes d'opportunités à l'époque pour réaliser le rêve d'aller en mission, entre guillemets.
Vous utilisez cette expression, aller en mission.
Oui, à l'époque, je l'utilisais vraiment clairement. Pour vous dire toute la vérité, d'aller au fond de l'âme, j'avais 18 ou 19 ans, puis je voulais devenir jésuite. Mais là, il y a eu un événement assez tragique, intéressant, parce que j'étais très déchiré. Je disais, est-ce que je vais chez les jésuites? Et là, un matin, ma mère qui me voyait attablé dans ce déchirement me dit, Serge... C'est vraiment pas de mes affaires, mais j'aurais le goût de te faire part de mon opinion. J'ai dit, je t'écoute. Elle dit, je pense que tu aimes trop les femmes pour aller chez les jésuites. Elle dit, si tu faisais autre chose pendant encore quelques années, après, si tu as encore envie d'aller chez les jésuites, tu iras chez les jésuites.
Belle lucidité d'une mère.
Oui! Et quand j'ai entendu cette phrase, ça m'a tellement apaisé. Si vous saviez à quel point ça m'a apaisé. Et là, j'ai fait, OK, je vais aller en médecine. Alors, j'ai décidé d'aller
faire... Autre manière de servir.
Voilà. Et effectivement, on avait des entrevues. Les gens voulaient savoir quelles étaient nos intentions. Hein. Quand on va en médecine, je pense que c'est important qu'on connaisse nos intentions. Et moi, ça a toujours été ça.
Clairement, servir l'autre.
Ouais.
Aider l'autre.
Être au service de... Ah, tout à fait. C'est un mot...
Et l'autre qui souffre.
Oui, c'est la personne qui souffre, absolument, parce que pour moi, c'est un mot magnifique, le mot « servir ». Je pense qu'on quelque part, nous sommes tous et toutes au service les uns et les unes des autres hein, dans nos vies.
Oui, mais parfois, vous le savez bien, on pense plus à se servir qu'à servir.
Et ça m'attriste beaucoup, parce que quand on pense à se servir plutôt qu'à servir, on ne réalise pas qu'on n'est pas sur la voie de ce qui permet d'être heureux. Et c'est ça qui est terrible, parce que... C'est un grand piège de la modernité. Hein. Avoir fait autant de place à l'ego, présupposant que ça conduisait au bonheur, à mon humble avis, on se trompe terriblement. Parce que plus on veut faire de la place à l'ego, c'est le contraire, plus on s'en va vers la voie de la souffrance, parce que l'ego n'est jamais satisfait, on veut toujours plus, on veut toujours faire plus, être plus, avoir plus. Et ça n'est jamais terminé, c'est un gouffre sans fond. Plutôt que d'être dans l'endroit où le bonheur existe, c'est-à-dire dans la présence. Et quand on est dans la présence, nécessairement, on est dans la présence à l'autre, à la présence à soi aussi, en rapport avec ce qui se passe en nous, mais pour apaiser ce qui parfois nous conduit à des souffrances inutiles, pour entrer à nouveau dans la présence et découvrir ce merveilleux lien que nous avons tous et toutes, cette interconnexion. C'est ça qui est fabuleux.
Et c'est intéressant de vous entendre parler comme ça, parce qu'on pourrait croire que c'est un jésuite qui nous parle. Il tiendrait les mêmes mots, alors que c'est un médecin que j'ai devant moi.
Bah, y a
vous vous rendez compte que vous parlez un peu comme un jésuite là.
C'est curieux, parce que actuellement aussi, la vie m'a amené à ça. Je fais beaucoup de conférences présentement au Québec, et puis... on me dit, mais tu prêches.
J'ai dit, bon. Ce qui ne doit pas être évident au Québec, parce qu'il y a une vieille rancune vis-à-vis de l'Église depuis la Révolution tranquille.
Oui, tout à fait. Mais bon, je parle de ce qui, à mes yeux, conduit à la possibilité d'apaiser la souffrance, surtout la souffrance inutile, parce qu'il y a des souffrances, à mon avis, qui peuvent être utiles.
Alors, cette souffrance inutile, vous la soignez beaucoup dans ce qu'on appelle la santé des organisations ou dans la médecine du travail. Ouais. Comment le médecin, je dirais, classique, hein, de famille que vous avez été à un moment, a choisi de rentrer dans cette voie de la médecine des organisations, de la médecine du travail?
Un jour, j'ai un professeur, je crois qu'il y a beaucoup de personnes qu'on rencontre au cours de notre vie qui, par leurs propos ou leur attitude, peuvent changer notre vie. Et il y a un professeur qui nous avait montré l'évolution de la courbe de la tuberculose au cours de l'histoire et qui nous montrait que la tuberculose avait chuté de façon radicale bien avant que les médicaments arrivent. Et ça m'a profondément bouleversé parce que je me demandais qu'est-ce qui est arrivé? Pourquoi la tuberculose a chuté? Et là, on nous expliquait que c'est parce que les conditions de vie s'étaient améliorées. Et j'étais déjà intéressé par la santé mentale. Et je me disais, est-ce qu'il n'est pas possible de faire en sorte que des personnes qui entrent dans la détresse psychologique, on puisse faire en sorte que ça soit évité, qu'on puisse prévenir cette détresse psychologique? Et je me disais, quel est le meilleur endroit que l'univers du travail, où on retrouve les personnes entre quatre murs, un plancher, un plafond, pour les rencontrer des personnes qui prennent des décisions à leur sujet, qui organisent leur quotidien et souvent qui créent des conditions qui peuvent amener ces personnes-là à se brûler, se vider, s'épuiser, perdre, je dirais, ce que j'appelle la flamme qui les habitait au moment où ces personnes-là ont commencé à faire leur travail. Parce qu'une chose que je trouve troublante, je soigne aussi des personnes qui ont carrément craqué dans leur travail.
Ce qu'on appelle les burn-out.
Les burn-out, la détresse psychologique, la perte de sens, très important, la perte de sens. Et ces personnes-là, quand elles arrivent dans mon bureau, je me dis, c'est fou, elles sont brûlées, épuisées, vidées. Et au moment où elles ont commencé à travailler, elles étaient habitées par une passion, une flamme. L'enseignement, la santé des milieux de travail où on a besoin d'avoir la flamme pour y aller. Et quand elles arrivent dans mon bureau, il ne reste qu'une toute petite flamme. Et je me disais toujours, mais qu'est-ce qui s'est passé? Et je me disais, de quoi ça a l'air, un enseignant chez qui la flamme est presque éteinte dans les yeux de 30 bouts de chou qui le regardent? C'est terrible, parce que les enfants apprennent par modélisation. Alors, quel genre de modèle ils ont devant leurs yeux? Et la même chose pour un soignant ou une soignante. De quoi ça a l'air dans les yeux d'une personne soignée? Un soignant, une soignante chez qui la flamme est éteinte. C'est terrible.
Et pourquoi cette flamme s'est éteinte comme ça? C'est ça que vous essayez de retrouver avec la personne?
Absolument. C'est vraiment ce qu'on essaie de trouver à travers la quête de sens. Parce que quand les personnes choisissent un métier, pour eux, ce métier a un sens. Dans le monde de la santé, dans le monde de l'éducation, c'est aussi... Je crois que ça s'appuie aussi sur le mot « servir », quelque part. Parce que éduquer, enseigner, c'est servir. Soigner, c'est servir. Et très fréquemment, on est maintenant, aujourd'hui, c'est un peu terrible parce que chez nous, en tout cas, il y a beaucoup de milieux de la santé qui se sont transformés. Où maintenant, c'est la vitesse qui a pris toute la place, la technologie qui a pris toute la place, de sorte qu'il y a des infirmières, des infirmiers qui ne trouvent plus le temps de tenir une main, par exemple. Et on sait à quel point le fait qu'une main soit tenue peut avoir une influence énorme sur la guérison d'une personne. Ça, on le sait. J'ai même vu quelqu'un qui proposait, lors d'un spécialiste de l'organisation du travail, qui proposait lors d'un colloque où j'avais aussi été invité, qu'on modifie complètement les tâches des infirmières, des infirmiers, et qu'on leur apprenne à faire plusieurs tâches en même temps. Par conséquent, d'installer un soluté, par exemple, et d'écouter la personne qui parlait pendant qu'on installait le soluté. Et là, il m'a demandé mon opinion. Et je lui ai dit, je suis pas certain que vous voulez l'entendre. Il m'a dit, non, on veut votre opinion. Ben, je lui ai dit, il y a certaines personnes qui sont malades, pour être certaines qu'elles sont entendues, ont besoin d'être regardées. Alors, si la personne regarde le soluté pendant qu'elle écoute, la personne n'aura pas le sentiment d'être écoutée. Et si elle a le sentiment d'être écoutée, ça peut avoir une influence sur sa guérison. Parce qu'elle va se sentir dans un espace de dialogue, de reconnaissance, et ça peut permettre à ce moment-là au corps d'entrer dans un état bénéfique pour lui. Donc, les personnes qui vivent ça ont l'impression d'avoir perdu un peu le sens de leur travail.
Visage, RCF.
Serge Marquis, ce stress au travail en face duquel vous êtes confronté régulièrement quand vous accueillez vos patients, vous l'avez connu vous-même dans votre vie?
Oui, tout à fait. Ça, je ne fais pas ça très fréquemment, mais je vais me confier. J'ai été très, très malade en 1984. Toujours un peu ému quand je parle de ça, parce que ça a changé ma vie radicalement. J'ai fait une hémorragie digestive massive. Je me suis retrouvé aux soins intensifs pendant 3 jours avec des transfusions sanguines, tubes dans le nez, des tubes dans les bras, des tubes dans la vessie, des tubes partout. On voulait à tout prix m'opérer. Parce que j'avais recommencé à saigner pendant l'hospitalisation. Et à l'époque, c'était une indication absolue d'intervention chirurgicale dans tous les bouquins de chirurgie. Alors, on voulait à tout prix m'opérer, mais je refusais. Il était 4 heures du matin. D'un côté, j'étais dans un lit aux soins intensifs. Puis de chaque côté de moi, il y avait un médecin, il y avait un chirurgien, il y avait un gastro-entérologue. Et ils essayaient de me convaincre d'accepter d'être opéré. Et je disais, non, c'est pas le ventre que vous devez m'ouvrir, c'est la tête que vous devez m'ouvrir.
Parce que quoi, vous vous rongiez de l'intérieur?
Oui, mais en fait, j'avais ce pansouillard, ce petit hamster qui courait sans arrêt dans ma tête à l'époque. Et effectivement, ça avait généré cette maladie à l'intérieur de moi. Je faisais moi-même le lien à l'époque, j'étais déjà médecin. Et même que, bon, quand on est médecin, on imagine toujours les pires situations. Je me disais peut-être que j'ai un cancer au fond de l'estomac, mais bon. Et je me suis retrouvé matin, et je suis allé à la toilette, et aux toilettes, on dit aux toilettes ici. Alors, j'allais aux toilettes, et il y avait une hémorragie massive. Alors, là, je suis allé à l'hôpital.
Mais vous aviez l'intuition que c'était lié au fait que vous pensiez trop, que vous étiez stressé intérieurement?
Absolument. J'en étais même persuadé, parce que je vivais une situation très, très difficile au travail, et même une situation difficile à l'extérieur du travail. Alors, j'ai eu un énorme stress. Et puis, ça a commencé par un inconfort au niveau de l'abdomen. Puis ça s'est accentué, jusqu'à ce matin où, en allant aux toilettes, il y a eu une hémorragie massive. Alors, je me suis retrouvé donc aux soins intensifs. On essayait de me convaincre d'être opéré. Je refusais. Et là, j'ai eu un gastro-entérologue extraordinaire. Docteur Paris, je me souviens encore de son nom, qui m'a dit, écoutez... on vous donne 24 heures. Si dans 24 heures, vous saignez encore, que vous le vouliez ou non, on vous opère. On veut pas vider la banque de sang pour vous et on voudrait vous garder. J'ai dit, c'est correct, j'accepte. Si je saigne encore dans 24 heures, j'accepte d'être opéré. Et là, j'ai fait la rencontre d'une infirmière extraordinaire qui a vraiment changé ma vie. Une femme qui, à l'époque, en 84, était déjà dans la cinquantaine. Qui est entrée dans la chambre, elle m'a dit, bonsoir, je m'appelle Garde Jutra, j'aime bien lui rendre hommage encore. Et elle m'a dit, le tube que vous avez dans le nez, vous allez cesser de le regarder. Moi, je passais mon temps à regarder le tube avec la pensée magique que ça arrêterait l'hémorragie. Et elle m'a dit, je vais le regarder à votre place. Mais ce que ça m'a permis de découvrir, c'est qu'elle avait détourné mon attention d'une source de stress qui était le fait de voir le sang sortir par le tube. En détournant mon attention et en l'amenant dans son regard, elle me permettait de m'apaiser. Et ça a été une découverte extraordinaire. Parce qu'elle est revenue 2 heures plus tard, je l'avais pas sonné, j'avais rien demandé, mais avec un petit plateau en métal dans lequel il y avait un liquide rosé. Elle est simplement venue pour humecter mes lèvres, ma langue, parce que j'étais très déshydraté. Et elle me parlait du temps qu'il faisait dehors, des choses simples de la vie, là, pendant 2 à 3 minutes. C'était au mois d'avril, à la période de Pâques. Il faisait un temps magnifique. Je ne voyais pas, moi, de l'intérieur des soins intensifs, mais elle me disait, vous allez pouvoir en profiter dans quelques jours. Et bon, elle a resté 2-3 minutes, elle a quitté la chambre et vers minuit moins quart, elle est revenue pour voir si je dormais. Mais je dormais pas, je me sentais tellement bien. Alors je l'ai prise par les bras et je l'ai embrassée sur les joues. On fait pas ça aux soins intensifs habituellement. Et là, je lui ai dit merci de ce que vous avez fait pour moi ce soir. Et je me suis endormi et le lendemain matin, je me suis réveillé et je ne saignais plus. Et là, j'avais découvert qu'on pouvait jouer avec son attention et entrer dans un état d'apaisement. Et ça favorisait, ça faisait en sorte que les mécanismes de la guérison pouvaient jouer leur rôle.
poursuivons sur RCF cet entretien avec le docteur Serge Marquis, qui nous aide à mieux comprendre non pas seulement son itinéraire que vous venez de nous partager, je vous en remercie, mais aussi celui que vous appelez Pensouillard le hamster. Alors, est-ce que c'est cette infirmière qui, lors de votre maladie, vous a fait prendre conscience que ce Pensouillard le hamster, ces pensées sans arrêt sont là dans notre cerveau et qui, quelque part, vous a mis sur la voie du travail qui est le vôtre aujourd'hui?
En fait, elle m'a permis de prendre conscience du fait que mon attention était accaparée par ce discours intérieur qui n'allait nulle part. Mais à l'époque, j'avais pas encore cette image du hamster dans sa roue qui court, s'épuise sans aller nulle part. C'est une petite fille de 7 ans qui m'a donné cette image. La fille d'un de mes très grands amis qui m'avait invité à dîner un soir. Et puis c'est elle qui m'a répondu quand j'ai sonné. Et puis elle m'avait dit « Serge, viens voir mon zoo ». Et je lui ai dit « Ton zoo ?» Elle dit « Oui, suis-moi ». Alors j'ai suivi, puis elle m'a amené dans sa chambre où il y avait un hamster, un cochon d'Inde, un lézard, des poissons, des oiseaux, tout ça. Et pour la première fois de ma vie, je voyais un hamster courir devant moi dans sa roue. Et j'ai dit à Marianne, j'ai dit « Est-ce qu'il arrête de temps à autre ?» Elle m'a dit « Oui, mais il a vraiment l'air d'aimer ça. Il court même la nuit. » Et là, ça m'a fait... au Québec, on dit « j'ai eu un flash », c'est comme une espèce de petite illumination. Là. Mais j'ai dit « c'est moi ça, c'est dans ma tête, c'est la même chose, ça court sans arrêt. Oh, j'y arriverai pas, qu'est-ce qu'on va dire de moi, qu'est-ce qu'on va penser, pourquoi c'est toujours à moi que ça arrive, machin. »
Toutes ces pensées qui sont là et qui n'arrêtent jamais.
Qui n'arrêtent jamais et qui ne conduisent nulle part comme la course du hamster, parce que ces pensées ne débouchent pas sur des solutions, n'amènent pas des solutions. Ce ne sont pas des pensées pleine de créativité, ce ne sont pas des pensées pleines d'amour, de compassion, d'empathie, ce ne sont pas des pensées qui relient, ce sont des pensées qui, au contraire, génèrent de la souffrance.
Et du stress.
Et du stress, et génèrent des conflits. Parce qu'elles sont pleines de jugements, de critiques, de blâmes. Un exemple extraordinaire, on est dans le métro, les portes s'ouvrent, une personne entre. Ça fait quelques secondes qu'elle est dans le métro, on la connaît pas, on l'a jamais vue, et il y a déjà des jugements dans notre tête à propos de cette personne, des critiques, sa façon d'être vêtue, bon, c'est fou, parce que on la connaît pas. Et déjà, il y a une tension à l'intérieur de nous, générée par les jugements, il y a un inconfort, ça c'est parce qu'il y a une réaction biologique, bien sûr, qui est générée par ces jugements. Et c'est fou parce que en l'espace de quelques secondes, si on apprend à le faire, on peut ramener l'attention dans le présent.
Mais alors, avant de trouver les moyens de dire à ce pensouillard le hamster d'arrêter de tourner dans sa roue, moi j'ai quand même une question qui me taraude. C'est que tous ceux qui ont fait l'expérience une fois dans leur vie de méditer, d'essayer d'arrêter de penser, se rendent compte que c'est quasiment impossible, que ça pense. Tout le temps.
Oui.
Mais ça vient d'où, ça, cette pensée? Et d'où vient le fait que ça tourne sans arrêt dans nos têtes, même quand on ne veut pas?
Ah, tout à fait, vous avez parfaitement raison. La nuit, ça nous réveille, bon, etc. Moi, je pense que c'est le résultat d'un mécanisme d'évolution. Il a fallu qu'on pense pour survivre. Parce qu'on a eu à faire face à tellement de conditions difficiles, des prédateurs, entre autres, qui pouvaient nous dévorer. Après ça, il y a eu toutes sortes de... les volcans, les inondations, les sécheresses, plein de cataclysmes de toutes sortes. Il a fallu être capable de penser pour survivre, entre autres d'enregistrer ce qui était un danger. Si on était dans un groupe et qu'on voyait l'un des nôtres se faire dévorer, par exemple, par un fauve, peut-être qu'on n'avait jamais vu un fauve avant, là. C'était la première fois qu'on en voyait un. Alors, on pouvait enregistrer ce qui arrivait, donc de voir le fauve dévorer l'un des nôtres, et que ça s'installe dans notre mémoire, parce que la fois suivante où on arrivait face à face avec un fauve, là, on le connaissait, le fauve. Et là, on était capable de se protéger devant l'éventualité qui nous attaque à notre tour. Donc, cette mémoire s'est structurée progressivement devant tous ces dangers qu'on observait, un serpent, par exemple, bon, peu importe, et les cataclysmes. Et on était capable de découvrir des moyens d'y faire face. Aujourd'hui, les fauves ne sont pas au coin des rues. Les prédateurs ne sont pas au coin des rues. Mais il y a eu comme une espèce de dérapage dans l'histoire, dans l'évolution, dans l'histoire de l'humanité. Parce qu'en même temps que la mémoire se construisait le sens du moi. Probablement en rapport avec le sens du territoire, la territorialité qui nous permettait de nous distinguer de ceux qui n'avaient pas de territoire. Et aujourd'hui, là où il y a eu dérapage, c'est que le cerveau ne fait pas la distinction entre la perception d'une menace à la survie et la perception d'une menace à l'ego, au sentiment du moi, qui, lui, est issu de ce que Jung appelait le processus d'identification, qui a fait qu'on a construit tout au cours de notre vie des, ce que j'appelle des pelures identitaires, des couches identitaires, comme un oignon. Et on s'identifie à toutes sortes de choses dans sa vie. Hein. On peut s'identifier à un vêtement qu'on porte, je raconte souvent ça, à la marque de sa voiture. Et s'il y a un commentaire qui est fait à propos d'un vêtement qu'on porte et qu'on s'est identifié à ce vêtement, le cerveau ne fait pas la distinction et déclenche la même réaction biologique que s'il y avait menace à la survie. Ce qui fait que on entre dans un mode de conflit avec la personne qui vient de faire un commentaire à propos de notre vêtement, parce qu'on est dans le même mode lutte que celui dans lequel on était devant un prédateur.
Alors, je vous suis sur le côté stress positif, stress nécessaire pour survivre, mais en même temps, nous générons sans arrêt des stress qui ne sont pas du tout pour notre survie, mais qui au contraire nous détruisent.
Oui.
Donc ceux-ci, ils n'ont rien de bénéfique.
Non.
Ils n'ont rien de nécessaire. Pourtant, ils existent et ils nous pourrissent la vie.
Ah, définitivement. Quand on est en train de défendre des pelures identitaires, par exemple, si je m'identifie à la marque de ma voiture et que quelqu'un me dit « mais t'as pas acheté cette voiture-là, c'est un Citron », je deviens immédiatement inconfortable et là, je suis prêt à défendre la marque de ma voiture comme s'il en allait de ma survie, ce qui est ridicule. Parce que je me fais souffrir inutilement, j'ai pas à défendre la marque de ma voiture comme si je défendais le mot « moi ». C'est ça qui est le gros problème. Je vois souvent ça dans des stades de sport au Québec. On appelle ça des arénas au Québec parce que ce sont des patinoires où les jeunes jouent au hockey. Je donne souvent cet exemple parce que c'est tragique. Il y a des jeunes de 6, 7 ou 8 ans qui jouent au hockey et il y a les parents qui sont assis et qui espèrent que leur jeune, que leur enfant va être celui qui va compter le plus de buts. Et là, on est déjà dans le mode de l'ego. Hein. Mon enfant est le meilleur.
On connaît bien ça autour des stades de foot.
Oui, c'est ça. Mon enfant est le meilleur, donc je suis le meilleur parce que je suis le père ou la mère de cet enfant, bon, blablabla. Et souvent, au Québec, on a des jeunes entraîneurs qui, bénévolement, donnent du temps pour les équipes d'enfants de 7-8 ans. Alors, ils ont 16 ans, 15 ans. Et puis, si l'enfant n'a pas joué suffisamment longtemps aux yeux du père ou de la mère, c'est souvent le père, bien, le père souvent attaque le jeune de 15-16 ans, non seulement verbalement, parfois ça va jusqu'au cou, parce que son enfant n'a pas joué plus que 5 minutes ou 10 minutes. Mais bon, c'est quoi le problème?
Et là, le problème, c'est quoi? C'est toujours que pensouillard, le hamster, est lié à l'ego.
Oui.
Mais alors, cet ego, là, vous avez utilisé le mot depuis un moment, cet ego, il est nécessaire. C'est notre moi, quelque part. Alors, ça veut dire qu'il y a un ego qui est mauvais, qui n'est pas nécessaire, et un autre ego qui est notre moi profond et qui est bon.
Oui. Ça me permet d'introduire un concept extrêmement intéressant à mes humbles yeux, c'est que l'attention ne peut pas être à deux endroits en même temps. Ça, c'est drôle, c'est évident, mais on le réalise pas. Par exemple, si je vous écoute et que mon hamster court au sens où, dans ma tête, il y a déjà des commentaires à propos de ce que vous êtes en train de dire, je ne peux plus entendre ce que vous êtes en train de dire parce que l'attention est absorbée par les commentaires à propos de vos propos. Et l'ego absorbe constamment l'attention parce que l'ego se sent constamment menacé. Il y a deux grands mouvements dans l'ego, en fait. Il y a le mouvement de croître parce qu'il y a l'illusion qu'en grandissant, il ne mourra pas. En ajoutant des pelures identitaires, bon, s'il y en a une qui est menacée, c'est pas grave, il m'en reste beaucoup. Il y a plus que ma voiture, il y a mes vêtements, il y a mon parfum, bon, blablabla, il y a un tas de choses. Même les connaissances, on s'identifie parfois à ces connaissances. Ça n'a rien à voir avec ce que nous sommes vraiment. Et là, il y a une question fondamentale qu'on a à se poser. J'en parle partout et je rends hommage à une personne extraordinaire que j'ai eu la chance de rencontrer, qui est une femme d'ici, qui est venue au Québec faire des conférences, qui s'appelle Madame Marie de Hénézel, qui a travaillé dans l'univers des soins palliatifs et qui est venue faire une conférence au Québec et qui a prononcé une phrase qui m'a complètement bouleversé, qui a changé ma vie. J'ai levé la main, je l'ai interrompue, c'était très impoli, et elle m'a demandé pourquoi, qu'est-ce que je peux faire pour vous, et je lui ai dit, vous venez de prononcer une phrase qui a changé ma vie, et je crois qu'elle peut changer la vie de toutes les personnes qui sont assises ici. Pourriez-vous la répéter? Elle savait même pas de quoi je parlais. Alors je lui ai dit, vous avez dit, madame, il faut découvrir en nous ce qui ne vieillit jamais. Quelle belle phrase! Et ça, c'est notre essence. C'est ce que nous sommes.
Comment vous l'avez interprété, cette phrase-là? Parce que nous sommes là des milliers à venir de l'entendre de votre bouche.
Ouais,
on l'a tous interprété de manière différente.
Ouais,
comment vous
vrai.
L'avez compris, cette phrase?
Et pour moi, ça a fait, mais qu'est-ce qui en nous ne vieillit jamais? Parce qu'après ça, elle a continué, mais ça continue à m'habiter, cette phrase. Et là, je me suis dit, mais qu'est-ce qui en nous ne vieillit jamais? Et là, j'ai réalisé que la première chose qui en nous ne vieillit jamais, c'est la capacité d'être présent ou présente. Ça ne vieillit jamais. Aux soins palliatifs, j'ai eu la chance d'accompagner des personnes de ma famille aux soins palliatifs, entre autres. Et j'ai réalisé à quel point c'était vrai, parce que même quelques heures avant de mourir, ces personnes-là étaient encore présentes complètement à leur entourage. Et cette capacité est au cœur d'un nombre extraordinaire de capacités qui ne vieillissent jamais. La capacité d'aimer. Comment peut-on aimer si nous ne sommes pas présents ou présentes? C'est impossible. Pour aimer, il faut que je sois présent ou présente. Et la capacité d'aimer ne vieillit jamais. Aux soins palliatifs, les gens sont encore complètement, s'ils sont pas perturbés par leur hamster, parce qu'aux soins palliatifs, il y a des gens dont la course du hamster prend toute la place. Hein. « Oh, j'ai raté ma vie, j'ai pas réussi à faire ce que je voulais, bon, blablabla. » Au lieu d'être dans la présence et de témoigner, entre autres, dire à quelqu'un « Écoute, merci. » c'était merveilleux que je puisse partager tout ce temps avec toi, bon, etc. Je l'ai vu, ça, je l'ai entendu. Alors, je suis pas en train d'inventer des choses. Donc, la capacité d'aimer, la capacité de s'émerveiller, ça ne meurt jamais. Ça meurt, mais ça ne vieillit jamais. La capacité de créer, on peut encore créer. Il y a des gens qui créent dans les derniers instants de leur vie. La capacité de savourer. Il y a ma belle-mère que j'ai accompagnée aux soins palliatifs et qui mangeait et disait « Oh là là, je pense que c'était meilleur hier matin. » Elle était dans la capacité de savourer, totalement présente. La capacité aussi d'apprendre. Je peux encore apprendre dans les derniers instants de ma vie. Moi, je crois pas que... Je pense qu'on peut apprendre à mourir en lâchant prise progressivement.
Il faut se préparer, non,
oui,
dans notre vie.
Tout à fait. Je pense
Dès maintenant.
Oui. Chaque jour. Si on apprend à lâcher prise, on apprend à mourir, je crois ça. Et je crois qu'on peut mourir dans la paix, je l'ai vu chez ma belle-mère, c'est possible, c'est certain. Et elle était encore en train d'apprendre à mourir, comme je pense que je vais l'être moi aussi dans les derniers instants, si c'est possible. Et la capacité de transmettre, ça aussi, ça vieillit jamais.
Serge Marquis, je rappelle que vous êtes médecin, spécialiste de la santé des organisations, mais beaucoup plus largement, en fait, de la santé profonde de chaque être humain. Mmh. Et dans votre livre, On est foutu, on pense trop, ou Comment se libérer de pensouillard le hamster, ce pensouillard le hamster qu'on essaye de mieux saisir avec vous au cours de cette émission, vous nous dites qu'il y a une solution pour se libérer de pensouillard le hamster, c'est la décroissance personnelle. Mmh. Alors, qu'est-ce que vous voulez dire par là? Qu'est-ce que c'est la décroissance personnelle?
C'est découvrir ce qu'on n'est pas pour aller vers ce qu'on est. En fait, nous ne sommes pas notre ego. Nous ne sommes aucune de nos pelures identitaires. Bon, je répète souvent la même chose, mais je ne suis pas mon stylo, je ne suis pas ma cravate, je ne suis même pas mon travail. Ça, c'est très important parce qu'il y a des personnes qui sont tellement identifiées à leur travail que le jour où ces personnes-là le perdent, j'ai entendu ça dans mon bureau, hein, j'ai entendu des gens dans mon bureau, puis dans ma famille aussi, des personnes qui ont perdu leur travail me dire des choses comme « je suis devenu un déchet social ».
Bon, voilà à la retraite aussi.
Absolument,
tous
on le voit
qui,
à la retraite
ne se considèrent plus du tout comme ayant une place dans la société.
J'accompagne présentement des personnes à la retraite. J'aurais jamais cru que ça arriverait. Des personnes qui m'appellent, ça fait 3 ans que j'ai pris ma retraite, je ne vais pas bien du tout. Et je m'aperçois que c'est un problème d'identification au travail. Ces personnes-là se sont éloignées complètement de ce qu'ils sont ou de ce qu'elles sont vraiment pour croire que si elles ne sont plus leur travail, elles n'en sont plus rien. Non seulement elles, c'est terrible parce que non seulement elles croient qu'elles ne sont plus rien, elles sont entrées dans une autre forme de pelure identitaire. Elles se mettent à dire quelque chose comme je suis un déchet social. C'est une autre forme d'identité. Il y a des gens qui peuvent même s'identifier à leur souffrance, hein. Et c'est terrible parce que on ne peut pas soigner des gens. C'est très difficile de soigner des personnes qui s'identifient à leur souffrance. Parce qu'il y a des personnes qui ont choisi cette voie pour se sentir unique.
Spécial. Et qui trouvent un sens à leur vie dans leur souffrance.
Oui, parce que c'est comme si leur maladie même. J'avais une tante, j'aime bien la nommer parce que je veux lui rendre hommage, tante Madeleine, elle m'a appris plein de choses, mais qui souffrait d'une forme très sévère d'arthrite et qui avait les doigts tout croches. Mais elle était pas, on pouvait pas la soigner parce que c'était devenu identitaire, parce que les doigts étaient tellement croches qu'elle était la seule à avoir des doigts comme ça. Ça la rendait unique, spéciale, et ça lui permettait de recevoir de l'attention. Et le jour où on la soigne et qu'elle perd cette maladie, si vous voulez, c'est terrible, mais elle n'a plus ce qui la rend spéciale. Donc, elle tient inconsciemment à entretenir cette maladie. C'est terrible, mais c'est comme ça.
Alors, attendez, ça, c'est un peu, des cas exceptionnels.
Oui,
mais comment chacun d'entre nous doit et peut entrer dans une décroissance personnelle, très concrètement, dans nos vies de tous les jours, même si ça va bien au niveau de son travail, au niveau de ses amis? Parce qu'on a tous à rentrer dans cette décroissance personnelle.
Ah, je crois profondément que c'est ce qui conduit au bonheur, moi. Je crois profondément.
C'est pas réservé aux gens malades.
Non, c'est à tous les êtres humains. Je crois profondément que c'est ce qui conduit au bonheur, ce qui nous permet de dire à quel point la vie vaut la peine d'être vécue. Je crois ça profondément. On peut entrer dans la décroissance personnelle en découvrant où est notre attention. Comme elle peut pas être à deux endroits au même moment et qu'elle est souvent absorbée par le hamster, le jour où on en prend conscience, mais c'est pas croyable, ça tourne dans ma tête. À ce moment-là, on peut s'entraîner à développer une capacité que je me permets d'appeler la vigilance. Et cette capacité nous permet de ramener l'attention dans le présent. Il faut s'entraîner à faire ça. Moi, je m'entraîne tous les matins, tous les soirs, avant de dormir. Je m'entraîne pendant quelques minutes, dès le réveil. Moi, je m'amuse souvent à dire qu'à peine les yeux ouverts, le hamster commence à courir, hein, qu'il y a des personnes qui ont des colonies de hamsters dans leur tête, hein, ils en font l'élevage. Alors, dès le réveil, à peine les yeux ouverts, je prends quelques minutes pour volontairement placer mon attention sur mon souffle. Ce que vous appeliez une forme de méditation tout à l'heure. C'est un entraînement de l'esprit. Parce que si je place volontairement l'attention sur mon souffle, je vais découvrir après quelques secondes que le hamster s'en est emparé à nouveau. Et à partir du moment où je découvre que c'est le hamster qui s'est emparé de l'attention, j'ai fait un grand pas dans ma vie. Parce que j'en suis devenu conscient ou consciente. Et c'est à partir de ce moment-là que je découvre que j'ai le pouvoir de ramener mon attention dans le présent. En passant par quelque chose de très concret. Le souffle, la respiration, c'est toujours là. Si je respire pas, je suis mort. Alors, le souffle est toujours là. Et je ne peux respirer que dans le présent. Ça, c'est sûr. Je respire pas dans le passé, je respire pas dans le futur, je respire dans le présent. Donc, je ramène mon attention sur mon souffle. Donc, ça débranche, je dirais, l'attention de la roue du hamster. Et ça permet de l'avoir complètement disponible ici pour que ma créativité s'exprime, que ma capacité d'aimer s'exprime, ma capacité de m'émerveiller s'exprime. On contemple un jardin. Si le hamster mobilise l'attention, nous ne sommes plus en train de contempler le jardin. Et ça, j'ai le pouvoir de le faire tout au cours de la journée.
Alors, ce que vous venez de nous décrire, c'est ce qu'on entend de plus en plus aujourd'hui. On le lit partout. Chez nous, on a en France Christophe André qui en parle beaucoup. On a toutes les techniques de méditation. Chez les chrétiens, c'est la prière. Parce que ce que vous nous invitez à faire, c'est d'être centré dans la prière sans les distractions, comme on dit en langage chrétien.
Absolument.
Donc, je dirais, rien de nouveau sous le soleil. Hein?
Non, pas du tout. Absolument. Je n'ai rien inventé. Et plus je lis sur le sujet, plus je découvre qu'il y a des gens qui ont parlé de ça. Il y a Bouddha, il y a 2600 ans. Le Christ, à sa façon, en a parlé aussi. Socrate, connais-toi toi-même. Il y a plein de personnes qui en ont parlé. À notre époque, cependant, ce qu'il y a de fascinant, c'est qu'il y a un culte de l'image qui s'est développé, hein, entre autres à cause de l'apparition de toutes les nouvelles technologies qui peuvent rapidement transporter des images. D'ailleurs, on voit ça chez beaucoup de jeunes qui, sur Facebook, placent leur image et demandent des commentaires, c'en est un exemple, demandent des commentaires à propos de leur image. Et s'il y a beaucoup de « j'aime cette image », tout à coup, il y a un bien-être qui apparaît, alors que ce n'est qu'une image. Mmh. Et s'il y a « non, je n'aime pas » ou des pouces vers le bas, ben, il y a des jeunes qui entrent dans une grande souffrance. Hein. Il y a même eu des cas de suicide à cause de ça. Et ça, c'est omniprésent à notre époque, l'image. De sorte qu'il faut continuer d'en parler. Il faut continuer de parler de ce que d'autres personnes ont
découvert il y a 2500 ans, 2600 ans, 2000 ans, peu importe.
Vous pensez, je vous provoque volontairement, mais c'est pas une opération marketing actuellement de vendre l'épanouissement personnel, le bien-être personnel, le besoin de faire de la méditation?
Je crois que c'est une nécessité, que c'est même une urgence. Je crois ça. À cause de toutes les personnes que j'ai vues dans mon bureau souffrantes, de celles que je vois dans les espaces de travail qui souffrent, de ce que ça génère comme tension, comme quête de sens, comme absence de relation soignant-soigné. Je racontais ce qui se passe chez les enseignants, bien des endroits. C'est urgent qu'on ramène l'attention dans le présent, parce que ces enseignants et ces enseignantes qui sont des modèles vont permettre à des enfants d'avoir des vies totalement différentes. Il y a une urgence. Moi, je dis que nous vivons dans une immense salle d'urgence présentement.
Vous parlez, alors, d'un côté, qu'il faut se méfier de l'ego parce que c'est un piège, mais de l'autre, vous dites, on a besoin de reconnaissance. Alors, comment tenir les deux?
En fait, très tôt dans la vie, enfin, on a besoin de reconnaissance. En fait, on a besoin d'attention parce que c'est ce qui permet d'assurer notre survie. Hein. S'il y a personne qui s'occupe de nous quand on a 2 ans, 3 ans, comment allons-nous survivre? S'il y a personne qui nous nourrit, qui nous protège, bon. Et on décode qu'il y a certains gestes qu'on fait, des attitudes qu'on peut avoir qui nous permettent d'avoir de l'attention. Là, il y a un piège aussi parce qu'il y a parfois des parents qui, sans s'en rendre compte, à cause de leur propre ego, veulent que leur enfant soit dans la performance, parce que ça les valorise. C'est mon enfant qui est le premier de sa classe, c'est mon enfant qui compte le plus de buts dans son équipe, c'est mon enfant qui est un prodige du piano.
Puis on lui dit aussi, on lui dit qu'est-ce que t'es merveilleux,
oui,
c'est fantastique.
Oui, c'est ça, c'est ça.
Enfin, en Amérique du Nord et au Québec, vous êtes beaucoup là-dedans, beaucoup plus que chez nous. Hein. Nous, on n'est pas trop dans la reconnaissance. Vous, très souvent, vous valorisez l'enfant.
Ouais. Mais ce qui est important de découvrir, c'est de distinguer la reconnaissance qu'on peut donner à un enfant au sujet d'un acte, de la reconnaissance qu'on pourrait apporter à un enfant, à travers notre présence et qui est une reconnaissance de l'être. Donc, distinguer très tôt l'acte et l'être. Et en parler même à l'enfant. Lui faire découvrir que c'est pas parce qu'il n'a pas compté un but lors de la partie de hockey qu'il n'est pas bon. Il y a un ami à moi qui découvrait ça, il disait à son enfant, chaque fois qu'il avait compté des buts, tu es bon. Donc, il entrait dans l'être. Et le jour où l'enfant n'a pas compté de buts, il pleurait. Parce que dans sa tête, il y avait le discours, je ne suis pas bon. Mais c'était tout son être qui n'était pas bon. À partir de ce jour-là, son père a commencé à distinguer l'acte et l'être. Il a commencé à dire à l'enfant, tu as joué une bonne partie aujourd'hui. Alors, ça n'a plus rien à voir avec l'être. Et c'est pas parce que t'as pas compté un but que tu n'as pas joué une bonne partie. On fait faire des nuances déjà à l'enfant.
Alors, oui, mais Serge Marquis, vous parlez beaucoup de la reconnaissance en lien avec l'enfant.
Ouais.
Mais les adultes ont besoin de reconnaissance. Et dans le monde du travail, on a tous besoin de reconnaissance. Et vous avez cette phrase que j'ai trouvée très juste. Vous écrivez, avez-vous remarqué que là où les personnes obtiennent le plus de reconnaissance, c'est au salon funéraire. C'est terrible, mais c'est terriblement vrai.
Oui,
on fait des compliments aux gens quand ils sont morts, pas de leur vivant.
Oui.
Et dans le monde du travail, plein de gens souffrent d'une non-reconnaissance.
Oui, oui. Mais j'ai envie de vous dire ceci parce que j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup travaillé sur la reconnaissance parce que les personnes qui arrivent dans mon bureau brûlées, épuisées, me parlent de reconnaissance.
Ou du manque de reconnaissance.
Du manque de reconnaissance. Oui. Et c'est important parce que au cours de notre vie, un psychiatre d'ici qui s'appelle Christophe Dujour disait que notre histoire commence à s'écrire dès notre conception et qu'elle s'écrit beaucoup à partir de notre naissance et qu'il y a des personnes pour qui il y a des grands pans d'histoire où il n'y a rien qui a été écrit. Donc, il y a des grands blancs, des espaces blancs. Et ces personnes-là vont devenir en quête de reconnaissance plus tard dans leur vie parce qu'il n'y a rien qui a été écrit à cette période-là de leur vie. Il n'y a pas eu la reconnaissance qu'un enfant cherche à avoir pour s'assurer qu'il va survivre.
Et ils n'en auront jamais assez.
Ils n'en auront jamais assez. Mais on peut découvrir, quand on est adulte, qu'on peut générer de la reconnaissance. Ça, c'est très intéressant. Parce que on ne passe plus, on n'est plus piégé par le besoin d'avoir de la reconnaissance. On découvre en nous la capacité à la générer en la donnant. Ça, c'est formidable. D'ailleurs, l'infirmière dont j'ai parlé tout à l'heure, qui m'a soigné quand j'étais très malade, a généré en moi de la reconnaissance. Je l'ai embrassée. Mais elle n'avait été que présente. Elle n'était pas dans son besoin de reconnaissance.
Mais elle l'a accueilli.
Elle l'a accueilli. On a créé un merveilleux lien. Donc, et ça, on peut découvrir ça. On peut découvrir que la capacité que nous avons de reconnaître peut générer éventuellement de la reconnaissance et on peut l'accueillir sans l'attendre. Parce que la reconnaissance est un cadeau quand on l'offre, mais elle est un piège quand on l'exige. Parce que c'est pas parce que je me mets à l'exiger qu'elle va arriver. J'ouvre une porte à la souffrance si je me mets à l'exiger, littéralement.
En fait, si je vous entends bien, être humble, ça rend libre.
Ah, tout à fait. Il y a un homme que j'ai beaucoup admiré, Jean Bonbourquette, un père aux Blancs, et qui disait que humilité, ça vient du mot humus. Donc,
la terre.
La terre, prendre racine. Hein, c'est merveilleux. L'humilité nous permet de prendre racine. Et ça, c'est formidable parce que on est solide quand on a des racines. Et quand on n'est pas dans l'humilité, quand on est dans l'ego, on n'est pas solide du tout.
Oui, mais quand on soigne son image, comme on le fait aujourd'hui, quand on est tellement attentif à son image, on n'est pas toujours dans l'humilité. Non?
Imaginez à quel point on se rend vulnérable. On n'est pas du tout dans l'humilité quand on soigne son image au sens... Il faut soigner sa personne, bien sûr, mais quand on est dans l'image au sens où qu'est-ce qu'on va dire de moi, si je, blablabla, et on est très vulnérable. Parce que la moindre petite remarque ou la moindre petite expression du visage qui peut être perçue comme une attaque à cette image déclenche une souffrance instantanée. On n'est pas solide, on n'est pas dans ses racines. J'avais vu un film où on nous présentait certains arbrisseaux dans le désert qui n'avaient pas de racines. Et le moindre petit coup de vent déracine l'arbrisseau. Alors, parce que c'est ça l'image. Aussitôt qu'il y a un commentaire, pouf, on est déraciné.
Il y a une petite anecdote que vous racontez dans votre livre, là, On est foutu, on pense trop, qui m'a bien fait rire. Surtout que ça touche un écrivain que j'aime beaucoup, comme vous, c'est Christian Bobin.
Ouais, je l'adore.
Quand vous êtes dans la librairie, vous ouvrez un livre de Christian Bobin et vous lisez « L'humilité, c'est la clé d'or. Dès qu'on prétend la tenir dans la main, elle s'évanouit. » Et alors là, vous nous dites... Alors, Pensouillard, le hamster a commencé à se dire « Mais moi, j'arrive pas à écrire comme ça. Pourquoi est-ce que moi, j'arrive pas à écrire comme ça ?» Et vous n'étiez plus dans savourer cette phrase-là.
Exactement. Je n'étais plus dans la présence. Et même dans, j'irais la gratitude à l'égard de Bobin. Merci, merci d'avoir écrit cette phrase et de m'avoir permis de passer ce moment magique. Parce que cette phrase m'a fait découvrir, m'a fait aller encore plus loin, m'a fait avancer, m'a fait découvrir quelle est la véritable nature des êtres humains et où on peut être heureux. Alors, dans la gratitude, même la reconnaissance, au fond. Alors que si je suis dans l'ego, pourquoi j'écris pas comme ça? Est-ce qu'un jour j'écrirai comme ça? Je ne savoure absolument pas le travail de cette personne-là et je n'apprends pas ce qu'il me permet d'apprendre.
On va remercier Christian Bobin s'il nous écoute. Je sais que c'est un auditeur d'RCF.
Ah, merci beaucoup.
On va le remercier et on va la relire cette phrase pour les auditeurs. L'humilité, c'est la clé d'or. Dès qu'on prétend la tenir dans la main, elle s'évanouit. Docteur Serge Marquis, nous poursuivons sur RCF cette rencontre aujourd'hui autour de votre livre « On est foutu, on pense trop, comment se libérer de Pensouillard le hamster ?» On a beaucoup parlé déjà de l'ego, de l'humilité. Bah, écoutez, moi j'ai envie qu'on parle un peu d'amour.
Ok, ça va me faire plaisir.
On peut parler un peu d'amour ensemble. Et qu'est-ce que vous appelez l'amour véritable?
C'est la présence absolue à l'autre, c'est pour moi, c'est ça. Et c'est à travers la capacité d'aimer qu'elle s'exprime. Je pense que le plus haut degré d'attention, enfin, la forme la plus élevée d'amour qu'on puisse offrir à une autre personne, c'est la qualité de notre attention, la qualité de notre présence, à mon humble avis. Pour toutes sortes de raisons, parfois la peine que la personne éprouve, la tristesse qu'elle vit, ou même la joie. Et on est là dans l'accueil de ça. Alors, on n'est plus dans notre besoin à nous que l'autre s'occupe de nous, nous accueille, etc. On est vraiment dans la présence totale en lui offrant toute notre attention, ce qui implique que le hamster se soit calmé pour qu'on puisse être totalement présent à l'autre. Et là, il se passe des choses magiques quand ça arrive, parce que dès qu'on offre une présence totale à l'autre personne, les craintes de l'autre personne
Là où l'ego de l'autre personne pourrait se sentir menacé, parfois, ça pèse. Alors, on entre en relation profonde au niveau de notre essence.
Une relation vraie.
Vraie, authentique. On n'est plus en train de se demander oh, qu'est-ce qu'il va penser de moi, ou qu'est-ce qu'il va dire, ou qu'est-ce qu'elle va dire, etc. On n'est plus en train non plus de vouloir à tout prix avoir l'attention de l'autre en trouvant la phrase magique ou les mots extraordinaires, ou peu importe. En parlant de nos exploits, bon, peu importe. Alors non, on est dans une relation authentique. Parfois, on n'a même pas besoin de parler. Ah, il suffit simplement d'être en présence de l'autre et on sent qu'on est en présence de l'autre totalement, dans une relation vraie, authentique, au niveau de notre essence. Et ça, c'est merveilleux.
Parce que c'est l'amour.
Pour moi, oui, tout à fait. Parce que là, on est profondément bien à ce moment-là. Et
on n'est plus dans la séduction, là.
Du tout. On n'est surtout pas dans la séduction. On est dans ce qu'on offre comme attention. Il y a un film que j'avais vu quand j'étais étudiant, j'avais peut-être 17 ans, et ça s'appelait Le Socrate. Et dans ce film, il y avait une phrase qui m'avait aussi beaucoup touché, ça disait « L'éternité est l'instant où nous sommes ». Et je trouvais ça très, très beau, parce que j'avais pas compris à l'époque, mais maintenant je comprends que l'éternité est l'instant où nous sommes, ça veut dire l'instant où je suis complètement présent. C'est un moment d'éternité réellement, parce que il y a plus de temps qui existe.
Et je suis à ce moment-là donc disponible pour accueillir l'autre tel qu'il est.
Totalement.
Sans mettre tous les filtres de jugement, il est comme ça.
Sans critique, sans jugement. En fait, je traverse toutes les pelures identitaires, si vous voulez, pour toucher à la capacité qu'a l'autre aussi d'être présent ou présente, à la capacité qu'a l'autre aussi d'aimer. Et c'est à cet endroit-là qu'on se rencontre. Et non pas dans le besoin de défendre une partie de notre ego, blabla.
Ça demande un sacré chemin, ça.
Mais on peut le faire d'innombrables fois au cours d'une journée. C'est ça qui est fascinant. Oui, ça demande du travail. Je suis tout à fait d'accord. Il y a une femme qui m'a raconté qu'il y avait un moine bouddhiste un jour qui était considéré comme un sage, un enseignant, et qui avait dit en pleurant, le moine pleurait, et il avait dit « Comment pourrais-je leur enseigner quelque chose d'aussi simple ?» Il pleurait, il cherchait un moyen d'enseigner quelque chose de très simple qui était au fond la présence. Parce que c'est simple d'être dans la présence à partir du moment où on découvre, c'est difficile en même temps. C'est à la fois très simple et très difficile. Parce que l'ego réagit constamment, le hamster court constamment. Alors c'est très difficile d'en prendre conscience et de ramener l'attention dans le présent.
Mais Serge Marquis, en vous écoutant, on a tendance à oublier que vous êtes médecin. Parfois, on pourrait repenser qu'on est avec un jésuite, excusez-moi. La santé est intimement liée à ce que vous venez de nous dire.
J'en suis tellement convaincu. Parce que je suis convaincu maintenant qu'il y a une réaction neuro-hormonale liée à la perception d'une menace à notre moi. Il y en a d'innombrables chaque jour. Il y a une réaction neuro-hormonale qui est une réaction de stress. Et elle peut survenir d'innombrables fois au cours d'une journée. Elle peut même survenir lorsqu'on s'éveille la nuit. Et lorsqu'elle se manifeste trop fréquemment ou qu'elle dure trop longtemps, elle ne joue plus son rôle. Et elle peut devenir nocive à ce moment-là et générer des maladies. Donc, la santé est intimement liée à la capacité que nous avons d'être présente et présents.
On dit souvent que le mot santé, le mot salut sont intimement liés. Oui, ils ont la même racine. Je vous ai demandé de parler un peu d'amour. Moi, j'aimerais qu'on parle un peu de Dieu maintenant, parce que vous en parlez dans votre livre. Alors, il faut peut-être parfois lire entre les lignes, mais il y a quand même des passages très nets où vous en parlez. Vous avez écrit, page 115, « Si Dieu existe, s'il existe vraiment, c'est quand Pensouillard n'est plus là pour y croire. Prenez une pause pour réfléchir à cette affirmation gratuite. Et peut-être que Dieu, pour la toute première fois, apparaîtra vraiment dans votre vie. » Trois petits points. Je dis ça comme ça.
Oui. Ben, vous savez, moi, ce qui m'émerveille, c'est... je vais vous donner un exemple très simple. Je trouve que dans les grandes villes, on ne voit plus assez les étoiles à cause de la pollution du smog, de la lumière, même la pollution lumineuse. Et parfois, quand je suis dans un endroit où je peux regarder les étoiles, je m'émerveille de cette extraordinaire interconnexion, cette harmonie absolument phénoménale, cette interdépendance que nous vivons. Et quand je vis ça, je me dis, bon, ben, peut-être que c'est ça, au fond. Et je m'émerveille, vraiment, je suis totalement rempli. Il y a un silence dans ma tête, il y a une forme de contemplation. C'est un mot que je trouve très beau aussi. Il y a une forme de contemplation, et à ce moment-là, je me dis, ben,
Peut-être que il y a même pas besoin de mots, mais peut-être qu'on peut appeler ça Dieu, comprenez-vous, cet extraordinaire environnement dont nous faisons partie humblement, cette interconnexion dont nous faisons partie. Et ça me remplit complètement.
Est-ce que la perte des religions, du sens de sacré dans notre société occidentale n'est pas une des causes finalement du mal-être de bien des gens?
Moi, je pense qu'on dit souvent au Québec qu'on jette parfois le bébé avec l'eau du bain. Et je pense qu'on a fait ça. Malheureusement, en rejetant les religions, on a malheureusement rejeté le message des personnes qui étaient à l'origine de ces religions, sans même savoir qui serait à l'origine des religions, bien souvent. Hein, je ne crois pas, moi, que ces grands sages ont nécessairement voulu générer une religion, mais ils ont lancé des messages extraordinaires de connaissance de soi qui peuvent mener vraiment au bonheur, savourer la vie.
Vers l'amour du prochain.
À l'amour de l'autre.
L'amour dont on parlait tout à l'heure.
Tout
le
à fait.
Amour.
Tous ces sages vont dans la même direction et nous amène au même endroit. Tous, peu importe la religion, peu importe le moment dans l'histoire où ils sont apparus, ils nous amènent tous au même endroit, une libération, une véritable liberté par rapport à l'ego et une présence qui permet de savourer l'existence et, à mon humble avis, d'aimer vraiment.
Nous sommes presque à l'issue de cet entretien, malheureusement, c'est trop bref, hein. Je serais bien resté encore plus longtemps avec vous, Serge Marquis, mais bon, il faut arriver à se séparer. Une dernière question. Aujourd'hui, Serge Marquis, personnellement, qu'est-ce qui vous rend vraiment heureux?
J'ai envie de vous dire chaque instant. Chaque instant, parce que, bon, c'est pas, mon pensouillard court encore aussi, mon hamster court encore, mais à force d'y travailler, je vous dirais, il y a un réflexe vraiment qui s'est installé. Et on me demande, parfois, où êtes-vous le plus heureux? Et je réponds ici, maintenant, avec vous. Tout à fait.
Mais c'est un travail de tous les instants,
oui,
pour arrêter ce pensouillard qui s'agite.
Toute la vie aussi, tous les instants et toute la vie, j'en suis maintenant convaincu, mais on devient de plus en plus alerte, vigilant, et on est de moins en moins longtemps happé par le hamster. L'attention est de moins en moins longtemps happée par le hamster, et redevient disponible de plus en plus rapidement. Et ça permet vraiment de savourer l'existence et le lien à l'autre.
Vous ne le savez peut-être pas, mais le slogan de RCF, c'est « La joie se partage ».
Wow.
Et j'aime bien demander aux gens, à l'issue de cette émission, pour vous, qu'est-ce qui vous donne vraiment de la joie dans la vie?
Être relié, c'est vraiment ça. Être relié. Ça me permet à ce moment-là de sentir que je suis vraiment qui je suis. Parce que qui sommes-nous à part des êtres de relation? Nous sommes des êtres de relation.
Et quand vous dites reliés?
Reliés aux autres, êtres humains, reliés, j'irais même jusqu'à dire reliés à la plante que je contemple, à la fleur qui m'apporte un grand bonheur à travers les couleurs qu'elle déploie, etc. Parce que c'est magnifique, le printemps arrive, puis on peut s'arrêter quelques secondes, contempler une fleur qui vient d'apparaître, et on est relié. Si on n'est pas dans l'hamster qui est en train de chercher le nom de la fleur, là, pour montrer à d'autres qu'on en connaît un et que les autres ne le connaissent pas, ça c'est l'ego. Mais quand on contemple totalement, là, on est relié. Le parfum, les couleurs, et c'est magique.
Merci beaucoup, Dr Serge Marquis, d'être venu nous parler de ce hamster, nous faire prendre un peu plus conscience de ce hamster qui s'agite un peu trop dans notre tête et de nous donner quelques recettes pour arrêter de le laisser s'agiter, de tourner en rond. Je rappelle le titre de votre livre, « On est foutu, on pense trop ». Comment se libérer de pensouillard le hamster, aux éditions de La Martinière. Puis j'aimerais bien finir avec une expression bien de chez vous. Vous savez, j'adore ce que vous dites quand vous avez cette expression. Ça n'a pas de bon sens de pas de triper comme ça.
Merci infiniment d'avoir accueilli chez vous.
Merci à vous.
Visage, une émission proposée par Thierry Lyonnais, assistante de production Laure Sylvestre, réalisation technique Philippe Faure.